let me chop it. Let me chop it, let me chop it.
Et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Cher Manche Disque, c'est le retour du direct.
Et c'est le retour du direct, un triste soir, hein, parce qu'on aimerait bien pour certains d'entre nous, pour nous deux même.
Bah ouais, ouais, on est super contents.
Un petit peu devant notre télé, on est
ouais,
super contents.
Il n'y a pas du tout de suspense en plus.
Non,
ça
non,
vous prouve
non.
Vraiment qu'on est en direct. Hein. C'est pas du tout un match à suspense, c'est pas du tout le meilleur match de l'Euro, c'est pas du tout l'équipe de France.
On est à 7-8 là à peu près, 7-8 je pense.
Je crois, un score de tennis, ça va finir en fait. Je sais pas. Enfin bref, voilà. On est super contents d'être là pour l'émission, bien sûr. C'est le grand événement du retour du direct. On va regarder nos portables discrètement pendant cette animation, donc excusez nos errances éventuelles. Mais on est toujours là avec nos galettes, donc là on est super content, c'est vrai, en vrai quand même, malgré
oui.
tout.
Ah oui, c'est une autre ambiance. Hein.
On
déjà,
est
le retour au studio c'était cool, mais alors le retour au studio plus le direct, c'est rock'n'roll.
Ah ouais, c'est complètement rock'n'roll. En parlant de rock'n'roll, on va démarrer cette émission avec un disque qui va nous réveiller, nous mettre dans l'ambiance, encourager peut-être les Bleus, parce que je suis sûr, en plus que tout le monde est. Carrément l'oreille collée au poste de Radio G là, c'est sûr et certain.
Oui, ils ont coupé le son de la télé.
Donc on va essayer de se faire entendre un petit peu.
I'm walking on out of here by myself.
On est dans l'ambiance.
Exactement, c'était les Dead Boys avec Ain't Nothing to Do sur l'album Young, Loud and Snotty. Donc les Dead Boys, c'est un groupe formé en 1975 à Cleveland, Ohio, qui va faire partie de cette première vague des groupes punk US, quoi, vraiment américains, avant que ça n'arrive jusqu'en Angleterre. Cette vague punk de du milieu des années 70, où il y a un côté garage qui prédomine encore. Les Dead Boys avaient la réputation d'être un des groupes les plus violents de cette scène. Ils vont être invités à New York par Joey Ramone lui-même, qui va leur trouver un appart et les inviter dans son fief qui est le CBGB. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer pour les garçons morts, puisque ils vont, grâce aux CBGBs, réussir à entrer 3 jours à Electric Ladyland, le fameux studio de Jimi Hendrix, pour enregistrer ce premier album, donc Young, Loud and Snotty, qui est sorti en 77 et qui contient le grand hymne punk Sonic Reducer. Même si c'est pas celui que j'ai passé, parce que je vous ai préféré. J'ai préféré vous passer Ain't Nothing to Do, qui est une référence directe aux Stooges. Carrément, le titre, c'est carrément un vers de la chanson des Stooges.
Et puis même, ça, au niveau musical, ça ressemble.
Ah oui, ça ressemble complètement, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe a eu une existence assez éphémère. Il y a eu une grosse pression de la maison de disques après le deuxième album pour changer l'allure et le style, parce que c'était la fin du punk, donc en gros, il fallait se calmer un petit peu. La maison de disques a fait appel au fameux producteur Félix Papalardi, qui était très talentueux mais qui n'était pas trop dans cette scène-là, hein, on va dire, il était un petit peu désamorcé. Et en fait, le groupe va se saborder au deuxième album. Ils vont contractuellement devoir un troisième album. Ce sera un live que Steve Bators, donc le chanteur, va saboter, puisque ça devait être filmé aussi, je pense. Il va passer son temps à chanter hors champ, pour de manière à ce que ce soit inexploitable. Mais ce sera quand même sorti chez Bomb Records en 81. Et puis voilà, le groupe s'arrête là. Il y a eu des réunions par la suite. Steve Bators n'en faisait pas partie, malheureusement, puisqu'il est mort percuté par un taxi en 1990 à Paris.
Oula.
Voilà, donc un vrai dead boy pour le coup.
Bah oui, pour le coup, il est vraiment dead.
Ouais, exactement.
Eh bien, on va enchaîner avec une série. Alors moi, je vais quand même présenter un peu ma sélection qui a presque un fil rouge, en fait. C'est-à-dire que ce sont des disques issus du Disquaire Day qui, pour ceux qui connaissent bien le monde du vinyle, savent que ça s'est déroulé
la première partie
partie,
c'est ça, parce que c'est en deux fois cette année,
c'était le 12 juin, je crois, et la prochaine fois ce sera le 17 juillet. Alors le Disquaire Day, c'est la fête du vinyle, c'est censé être la fête des disquaires, on en parlera
indépendant,
donc on en parlera tout à l'heure, parce que on va peut-être aussi parce que en tant qu'amoureux du vinyle, on a aussi le devoir de garder, me semble-t-il, un esprit critique
sur
cet événement. On n'a peur de rien.
On a vu notre pub sur Facebook, on n'a peur de rien.
Et donc, on va en parler tout à l'heure d'un point de vue un peu plus critique. Mais c'est l'occasion aussi de choper des bons disques. C'est ce que j'ai fait. Et on va commencer avec un disque qui s'appelle Head West. Head West, c'est un projet à la tête duquel il y a un certain Bob Welch. Bob Welch, pour ceux qui ne savent pas qui c'est une figure qui fera ensuite partie de Fleetwood Mac, qui est beaucoup plus connu. Donc ça, c'était avant Fleetwood Mac, donc c'est un projet de un trio, en fait, hein. Qu'il a mené, en fait, ce Bob Welch, un trio un peu soul, jazz, basé sur Paris d'ailleurs, hein, basé sur Paris. Ça a d'ailleurs été sorti chez Vogue en 1970.
Excellent.
Et ce disque, il est de toute beauté. Il a été réédité depuis. En plus, le titre a changé parce que c'est Bob Welch and Head West. Maintenant, après sa notoriété, le titre était jugé comme plus accrocheur, plus vendeur. Je vais vous passer un morceau qui s'appelle Attention. Et Attention, c'est un morceau qui a aussi remis Head West dans le game, puisqu'il a été samplé par des artistes dans le monde du hip-hop très connus, notamment Gorillaz et Tyler, The Creator. Donc on s'écoute Attention du projet Head West. Et voilà le projet Head West.
Impressionnant.
Et
très
le
impressionnant.
Attention. Alors tout le disque est pas comme ça. Hein. Celui-là est très free,
oui,
très barré.
Demandé.
Du coup, c'est bien. C'est en même temps dans la thématique un peu punk qu'on a instauré un petit peu depuis le début de l'émission. Mais voilà, donc c'est un ce morceau-là forcément c'est une mine d'or pour les beatmakers du hip-hop, hein, puisqu'il y a plein de beats différents, des sons différents et assez facile en plus à sampler. Donc c'est ce qui explique qu'il a été utilisé et donc remis au goût du jour.
Exactement, impressionnant. Et ben moi je vous propose de repartir, je pense qu'on reste dans les années 70 parce que ça devait être un album des années 70, je pense.
70 piles.
Moi je vous avais passé un morceau de 1977, et ben je vous propose effectivement de rester dans ces eaux-là avec un album, un morceau d'un album de 1978. Cette fois-ci, je vais vous parler de Pure Hell. Alors Pure Hell, c'est de nouveau, à la manière des Dead Boys, les précurseurs de ce rock garage glam punk de New York du début des années 70. Ils sont même là un petit peu avant, puisqu'ils se sont formés, eux, en 1974, avec la particularité que l'ensemble du groupe est afro-américain. On est en présence donc d'un groupe de punk totalement afro-américain, ce qui est plutôt original, puisque c'est une musique plutôt de blanc-bec.
À ma connaissance, c'est le seul groupe que je connais.
Donc, ce sont les potes des New York Dolls, ils finiront aussi par jouer avec Sid Vicious, c'est une grosse influence de Bad Brains, et c'est un groupe vraiment à l'époque de référence, mais qui va rester dans l'ombre, qui va galérer en fait. Ils vont finir par partir en Angleterre, enregistrer lors d'une session gérée par Tony McPhee des Groundhogs, dont on a déjà parlé, dont on a déjà passé un morceau, Thank Christ for the Bomb, il y a quelques émissions de ça. Ils vont en sortir un single qui est une reprise de, je vous laisse deviner qui, le titre c'est These Boots Are Made for Walking. Là
moi
aussi,
je l'ai.
On en a passé.
Non, si, Sinatra.
Voilà, on en a passé il y a deux émissions de ça, ou à la dernière ou l'autre d'avant. Ça va sortir donc en 78. À la suite de ça, tout un album va être enregistré qui ne sortira pas et qui va rester 28 ans dans les greniers avant de sortir enfin en 2006, l'album s'appelle Noise Addiction et il est depuis donc sorti en CD je pense, et puis aussi dans un très beau vinyle, et on va écouter là le morceau, alors attendez je vous trouve ça, Wild One. le titre Wild One, pardon.
Alors là, je vais te poser l'ambiance.
Ouais.
On va poser l'ambiance grave, parce que je vais vous passer donc un titre d'un disque des plus attendus de ce disque RD.
Tout à fait.
Puisqu'il s'agissait d'un inédit, enfin en tout cas, oui, inédit en vinyle.
Ouais, ouais, c'est ça.
De Prince, son album, enfin son bonus d'album, mais qui est considéré comme un album à part entière, à juste titre, qui s'appelle The Truth.
Bah oui, il a l'air d'avoir pas mal de morceaux.
Voilà, initialement, je dis bonus parce qu'initialement il a été sorti en bonus de son album Crystal Ball.
D'accord.
En 98 donc. Et donc c'est un album qui se caractérise comme étant, enfin pas tout à fait mais presque, un album de guitare acoustique.
D'accord.
Alors avant ça on avait eu une édition récente là, de One Night Alone qui était un album tout en piano et cordes, enfin des arrangements bien sûr, mais surtout avec le piano en instrument principal et la voix de Prince. Et là on a The Truth qui fait un petit peu pareil avec la guitare. Alors pour parler un petit peu plus maintenant spécifiquement de cette réédition là, plus que l'album qui est excellent forcément, très beau, très voilà, Prince dans toute sa splendeur. On sait que même si il y a toujours un débat sur est-ce qu'il est meilleur guitariste que pianiste, est-ce qu'il y a besoin forcément de savoir de trancher entre les deux. Bon, quand même, hein, Prince, il est, son instrument de prédilection, c'est quand même la guitare. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il était mauvais pianiste, mais enfin bref. Donc là, il est vraiment dans son élément. Mais sur le support en tant que tel, enfin sur l'édition en tant que tel, One Night Alone, ça avait fait grincer des dents plusieurs fans, dont moi, parce qu'on était sur une qualité de pressage absolument dégueulasse, hein, de la part de Sony. On était sur en plus un album qui pardonne pas, quoi. Je veux dire,
oui, sur ce genre
piano
de son,
voix, ouais. Quand il y a de la saturation, quand t'as des cris, des cracks.
C'est pas pure hell, quoi.
Non, ça s'entend tout de suite, ça casse l'ambiance parce qu'on a envie justement de clarté, de pureté. Donc c'était vraiment vraiment une grosse déception. Moi j'ai retourné mon exemplaire de One Night Alone trois fois croyant que je tombais sur, j'avais pas de chance, mais en fait à un moment donné je me suis dit bah non, c'est pas que j'ai pas de chance, c'est que c'est comme ça, c'est que en fait t'as du bol quand t'as quelque chose de bien. Donc j'étais très 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 nerveux à l'idée de cet album en guitare acoustique, parce qu'on est un petit peu sur la même exigence en termes de son et puis et de qualité de pressage. Et j'ai eu la bonne surprise de m'apercevoir que ce pressage était absolument excellent. Alors ai-je eu de la chance ? Je ne sais pas, parce que ce que je vois sur Discogs dans les commentaires sont pas aussi enthousiastes que moi. Moi, j'ai
cette fois-là, ouais,
sur des forums et des pages Facebook que je fréquente d'amateurs de vinyle, je me suis empressé de dire la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui auraient été hésitants à juste titre, parce que le
c'est toujours Sony.
C'est toujours c'est eux qui ont les droits là.
Oui, donc tout ce qui
sort, c'est eux, à part des albums comme la précédente réédition de Sign of the Times qui était encore dont le contrat permettait encore à un autre label de le sortir, mais en tout cas voilà, chez Sony ils ont ressorti ça. Moi j'ai eu peut-être de la chance d'avoir un bon exemplaire, mais je vais vous faire écouter donc un titre, parce qu'on va revenir dans la musique maintenant, qui s'appelle Circle of Amour. Et qui va nous poser un petit peu, on va essayer de pas trop se poser parce que on a encore les yeux un peu sur le déroulé du match et on est sur une soirée un peu haute en tension, mais justement ça va peut-être nous faire du bien.
Exactement.
Voilà, faut le prendre comme ça va nous faire du bien. Et puis Prince dans toute sa splendeur, dans sa précision de jeu à la guitare, toute sa qualité de musicien illustrée dans ce titre.
Mary Claire, Denise and Belle, best friends as far as I could tell, cheerleaders, except for Denise. She was the wild one, she was the beast, she was the one who named the group, the original gang of four. Mary Claire, Denise and Belle, circle of amour. Chilly cold afternoon, over to say. They all spent the day just counting time, counting time. Halfway through her history class, Denise, she kindly raised her hand and asked if she could be excused, cause she ran from school in a hurry. The other girls, ooh, they knew this is what friends are really for. Mary Claire, Denise and Belle, circle of amour.
C'est moi qui l'ai fait avec la platine.
Ça, c'est beau, ça. C'est beau.
J'ai arrêté sur le début du morceau précédent. Ça fait comme un scratch sans toucher le disque.
Ouais, pour bien jouer. Ouais. Le manche-disque 101.5
sur Radio G. Et oui, on l'a même
en
pas
direct.
Dit. On l'a même
nous
pas dit depuis le
direct.
Début.
Nous sommes en direct.
On
nous
est
sommes
en direct. En direct. Et je vais même vous le prouver, 115e minute, 3-3 France-Suisse. Voilà.
Exactement.
Donc, c'est pas, voilà. Jusqu'au bout, on va être empiété par le match.
Gros suspense. Donc, j'en profite, moi, pour annoncer un petit peu du teasing, puisque là, on va s'écouter un morceau de la compilation Brown Acid. Et je pense que ça risque d'être, non pas la dernière fois que je passe du Brown Acid, ils en sortent deux par an, c'est plein de pépites, mais de ce passage obligé dans l'émission qu'est un morceau de Brown Acid. Et je vais vous proposer de rester dans le rock lourd et proto-stoner, machin, tout ça, de la fin des années 60 et du début 70, mais de traverser l'Atlantique pour retrouver la même scène, cette fois-ci du côté de l'Angleterre. J'avais déjà abordé un petit peu ces compilations qui s'appellent cette cette fois-ci I'm a Freak Baby, qui sont des compilations pour le coup en CD, donc je ferai une petite entorse, mais ce sont là le numéro 3 vient de sortir, je l'ai reçu ce matin même, et ce sont trois compilations qui sont trois triples CD plein ras la gueule avec 17-18 morceaux à chaque fois, donc vous imaginez, j'ai de quoi tenir toute l'année prochaine. Donc l'année prochaine on reste dans le heavy, psyché, machin, mais cette fois-ci anglais. Donc il nous reste encore une, deux, trois, deux émissions peut-être avec Brown Acid, et puis voilà, après ce sera on ira voir chez les Anglais, du côté des Anglais, ce qui se passe.
En CD donc.
En CD. Donc, oui, parce que cette compilation n'existe pas en vinyle, à ma connaissance.
Mais de toute façon, on peut plus leur acheter de vinyle aux Anglais avec leurs taxes là.
Déjà.
C'est devenu trop cher. Donc,
ouais,
voilà.
C'est pas sympa. Donc
on se reporte sur les CD, c'est très bien.
Exactement.
Ça me semble juste.
Mais bon, là on reste sur du Brown Acid, et comme je vous dis, je m'interdis pas d'en passer bien sûr, hein, avec deux compiles par an s'il continue, et faites qu'il continue, mon Dieu. Donc là, c'est Nobody's Children. En fait, c'est un groupe de Dallas. Le morceau date de 1967. Alors, en fait, il s'appelle Good Times. Et c'était plus ou moins, pas une blague, mais il a été écrit sur un ton un peu humoristique. Mais un gars d'une télé texane a entendu la démo et tout de suite l'a passé à une radio et à un label qu'on a tiré une centaine de copies, d'exemplaires. Et c'était prévu que ça passe le soir sur une radio de Dallas, le KLIF. Malheureusement, c'était le soir de la mort, non pas de John Kennedy, mais de Robert Kennedy. Et il y a eu tout un tribute ce soir-là en hommage au sénateur assassiné. Donc la chanson est passée à la trappe. Et le reste du groupe aussi, visiblement, hein, puisque ensuite cette chanson elle a connu de nombreux bootlegs et elle a même été reprise par les Butthole Surfers. Mais grâce à Brown Acid, on la retrouve dans sa version originale et tout à fait, payée. Les ayants droit ou les musiciens, s'ils sont toujours parmi nous, ont été payés. Donc c'est plutôt cool, je trouve, de la part de Riding Easy Records. Et donc on s'écoute ce morceau de 1967, Good Times par Nobody's Children.
Good times.
Brown Acid, donc, j'espère que vous avez apprécié ce voyage. Il nous reste encore au moins, donc je disais, hein, sur la fin de la saison, encore au moins une date où j'aurai le plaisir d'en passer encore. Et yes. Ensuite, I'm a Freak Baby.
Cool. On va changer complètement de style là. Moi, je vais continuer ma série. Qu'est-ce qu'il a acheté, Nico, au Discard Day. Donc, ça va être le troisième et dernier parce que j'ai eu que trois disques. J'aurais bien aimé en avoir un, voire deux autres.
Ben oui, mais, moi aussi.
Mais pour les raisons qu'on a évoquées, qu'on va évoquer tout à l'heure. C'était pas possible. J'ai dû faire avec l'offre.
On en a fait une commande, mais on n'y croit pas trop là.
Non, d'ailleurs, celui-là là, que je vais vous passer, je l'ai eu par correspondance. Non, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, à distance, quoi. Je l'ai reçu par la poste parce qu'il n'était pas dans les bacs angevins. Ils ne peuvent pas tout avoir. Hein. Ils avaient déjà beaucoup de choses. D'ailleurs, je salue aussi bien ceux qui ne l'ont pas fait parce que c'est pour des bonnes raisons et ceux qui l'ont fait parce que du coup, ça faisait plaisir. Et donc, je vais vous passer un morceau de Pat Thomas. Est-ce que, Julien, ça te dit quelque chose?
Oui. Effectivement, je pense que c'est le monsieur qui avait été produit par Brian Eno, non? À un moment, sorteur de High Life.
Ah non, c'est pas lui. Eddie Franco, ça.
C'était Eddie Franco.
Mais t'es pas loin, parce qu'on est quand même sur du High Life. On est bien sûr de la musique africaine. Et on est sur un des pionniers justement du High Life, donc le Ghanéen. Donc le High Life, c'est cette musique qui a été.
Qu'est-ce que c'est le High Life?
Ben, le High Life, c'est cette musique qui a été construite à partir des années 20. Au Ghana, c'était une musique qui alliait le folklore ghanéen, mais aussi les musiques militaires, beaucoup d'influences mélangées. Ça a été retravaillé ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale avec des GIs, jazzmen, etc., qui sont venus mettre un petit peu leurs pattes, qui lui ont apporté des choses. Et puis ça a connu donc son âge d'or ensuite par on connaît tous Ebo Taylor par exemple, mais aussi Pat Thomas qui est un des pionniers qui a collaboré d'ailleurs beaucoup avec Ebo Taylor donc dans l'élaboration de ce High Life qui sera ensuite récupéré par Fela Kuti qui va le faire évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrobeat.
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc on est sur ce genre de choses. Donc pendant ce discarder, le deuxième album de Pat Thomas, parce que les albums de Pat Thomas, alors il y a ceux qui ont été réédités souvent chez Mr Bongo d'ailleurs, qui s'est fait une petite spécialité de rééditer ses albums, mais même les rééditions de chez Mr Bongo, elles sont pas toujours faciles à trouver. Les originaux de Pat Thomas,
j'imagine,
ça
même
coûte
pas
très cher. Ouais. Ça coûte très très cher parce que ghanéen, petit tirage, qualité parfois un peu aléatoire de pressage. Qui fait que les états, en trouver un en bon état, c'est encore plus mission impossible, donc c'est encore plus un bras et demi, voire deux. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ce deuxième album, donc Stage 2 de Pat Thomas, a été réédité. Donc je vous ai choisi un titre qui, à l'heure où les joueurs de l'équipe de France se préparent pour les pénaltys, j'espère, n'est pas annonciateur mauvaises nouvelles pour nous.
C'est ce genre de truc, genre « I lose against Switzerland ».
Non, c'est pas trop ça, mais c'est « We're coming home ». Donc « We're coming home », j'espère que c'est pas tout de suite.
Non, vous changez de titre, s'il vous plaît.
Mais on va dire que c'est pour conjurer le sort. Si c'est prémonitoire, eh bien, les superstitieux d'entre nos auditeurs auront le droit.
On dédie ce morceau à la Suisse.
Voilà, auront le droit de You're Coming Home, on va le chanter à la Suisse, n'est-ce pas? Allez, on s'écoute ça tout de suite, Pat Thomas.
Where we
on ose à peine regarder notre petit écran de téléphone portable. Nous perdons tous nos moyens. La Suisse s'apprête à tirer son troisième ou quatrième pénalty. Je ne sais plus, j'arrive plus à compter.
Quatrième et...
Il rentre, mais Hugo Lloris le touche. Oh, on est commentateur là, sportif, ça y est.
Eh oui, mon cher Jean-Mimi.
Eh oui, tout à fait, Thierry.
Mon cher Jean-Mimi.
je vous propose maintenant d'écouter Ian Hunter.
On est un petit peu perturbé par ce match. On est un petit peu perturbé par ce match. Là, c'est les pénaltys, le suspense est à son comble. Mais on s'est écouté Pat Thomas. Donc,
Pat Thomas.
Voilà, Pat Thomas entre nous. Oui, parce qu'on fait aussi les grosses têtes.
Ouais, c'est, voilà, on est polyvalent. Appelez-nous.
Alors, vos animations.
On va continuer avec toujours du rock, avec un album que j'ai trouvé récemment dans une très bonne petite boutique de La Roche-sur-Yon, je vais y arriver.
En Vendée,
tu exactement.
Trouvé quelque chose en Vendée.
Mais alors en fait, je suis assez mitigé sur cet album. Je vous explique, je le présente. C'est un album de Ian Hunter. C'est son deuxième album solo. Ian Hunter, c'est le frontman de Mod the Opal. Je ne sais pas si vous connaissez Mod the Opal, mais
alors,
c'est eux qui ont été célèbres, on va dire un peu par ricochet, puisque ils ont chanté All the Young Dudes, qui avait été écrit par Bowie, que Bowie a repris par la suite et qui l'a rendu célèbre. Donc voilà, Mod the Opal, ils ont commencé une sorte de blues rock bien sombre, et comme ça marchait pas, petit à petit, au moment du glam, ils ont glissé tranquillement vers le glam, qu'ils ont réussi à faire avec talent. Hein. Là, on est bien plus tard, Mod the Opal est terminé, on est en 1977, Ian Hunter sort son deuxième album, Overnight Angels. Moi, je l'ai acheté parce que voilà, j'ai vu l'époque, j'ai vu Earl Slick à la guitare. Earl Slick, c'est un guitariste attitré de David Bowie, très talentueux.
Rien à voir avec Grace Slick ?
Non, ça pourrait, mais non.
Dommage.
Et en fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est que cet album, donc Overnight Angels, est produit par Roy Thomas Baker, c'est le producteur de Queen, et on retrouve tout ce qui fait du Queen un peu avant l'heure. Enfin, je crois qu'en 77, Queen, ça commençait à peine, ou enfin, je m'y connais pas trop. Peut-être
moi non
peut-être
plus.
Déjà.
Je suis pas spécialiste de Queen, perso.
Je n'aime pas trop.
J'ai vu le biopic, mais je me rappelle plus les années.
Je n'aime pas trop Queen, et en fait, là, voilà, on sent un album forcé. D'ailleurs, Ian Hunter va le désavouer en disant qu'il chante trop haut et il pousse trop sa voix, quoi. On sent toute la grandiloquence, toute la tarte à la crème du travail de Roy Thomas Baker. Je refais ça, je l'habille pour l'hiver, le pauvre. C'est un album qui aura une histoire difficile, hein. Il n'y aura pas de sortie US. Et en fait, il va servir à Ian Hunter juste de vivier, en fait, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle England Rocks. Il va puiser dedans ce morceau qu'il va retitrer Cleveland Rocks. Cleveland, d'où viennent les Dead Boys, la boucle est bouclée. Et Cleveland Rocks lui apporte un grand succès par la suite dans sa carrière. Aujourd'hui, Ian Hunter est un monsieur de 82 ans qui a d'ailleurs fait un très beau poème en hommage à David Bowie qui ouvre la biographie de Jérôme Soligny sur le monsieur. Et là, la Suisse, ils ont l'air tout contents, donc on l'est un peu moins, forcément.
Ouais.
Et c'est carrément fini là, non?
Oui, c'est terminé.
Ah, c'est terminé. D'accord.
We are coming home, je suis désolé pour.
Adressez vos lettres de protestation à Radio G. On s'écoute quand même Overnight Angels.
Ouais, on va se remonter le moral.
Ouais. Hein, avec c'est la chanson titre de l'album titre.
On va s'en remettre aux anges.
C'est quand même pas mal. J'en ai dit du mal, mais justement j'hésite parce que ça reste quand même.
Si tu le passes, on a bien compris
voilà,
que hein, dans la laideur des fois se cache la plus belle des beautés.
Exactement.
joli petit finish à la Freddie Mercury.
Ouais.
À la Bohemian Rhapsody.
Ben oui. Queen encore oui. Et toujours. Hein. Voilà. Bon. Mais bon, voilà, ça s'écoute quand même. Hein. Je le trouve plutôt sympathique. Après, c'est
carrément
pas,
même.
C'est pas, voilà.
Moi, j'ai bien aimé, moi.
Ouais,
j'ai bien
ouais.
aimé. Une bonne gratte électrique et tout.
Ah bah, bon. Alors, le slick, forcément.
Bon, on avait dit qu'on disait deux mots critiques un peu sur le disque
oui,
Hardy,
oui,
parce
oui,
que,
oui.
Voilà, on a été un petit peu alertés par nos amis et nécessaires disquaires indépendants.
Oui.
De ci, de là, Angers comme ailleurs. Et ouais. C'est vrai qu'il faut
quelques
quand même dire deux mots sur cette.
Un peu négative. Hein.
Bah, cette soi-disant fête des disquaires indépendants, fête du disque et des amateurs de disques, qui devient un petit peu la fête des majors quand même, hein,
ouais.
Parce que c'est vrai qu'on a depuis quelques temps remarqué une hausse considérable des prix du vinyle que les majors justifient par la hausse de la matière première
oui,
servant
on
à presser.
Ça a bon dos, quoi. Ouais.
Mais voilà, ils commencent à se dire quand même que la progression des prix n'est absolument pas représentative en fait de la progression de la matière première. Que c'est une flambée qui est surtout due en fait à une forte demande et un retour en force du vinyle comme support préféré des audiophiles et pas que d'ailleurs, puisqu'on a de plus en plus de mauvais pressages, de mauvaise musique, je le dis quand même, voilà,
oui,
parce qu'il y a
oui,
beaucoup
oui.
beaucoup de voilà, le vinyle c'est aussi une culture, c'est aussi une époque, c'est aussi voilà une approche musicale, et il y a des musiques qui ont pas forcément beaucoup à gagner à se retrouver sur sur vinyle, mais bon voilà, ça se vend, ça permet de répondre à une certaine demande aussi du côté le vinyle c'est trop hype et c'est tellement mieux, voilà, que moi je critique tout en la jugeant quelque part positif, parce que ça peut aussi permettre aux disquaires et à toute une chaîne de manger, sauf que ceux qui se gavent le plus dans cette affaire c'est avant tout les majors,
ouais.
Donc c'est pas du tout les disquaires, parce que justement le disquaire des dans ces conditions qu'il impose de plus en plus aux disquaires, eh bien le fait que pour eux c'est de moins en moins intéressant,
ouais.
C'est de moins en moins possible d'avoir un max de références, parce que ben voilà, les prix montent, donc à un moment donné
c'est un gros risque, hein, de prendre tout,
voilà.
Voilà,
les invendus, ouais. Bah, ça représente quand même une forte avance de trésorerie, puisque dernièrement j'ai cru comprendre en plus que il fallait payer d'avance, alors qu'avant on pouvait payer en plusieurs fois,
ouais.
Et ce qui permettait aussi d'absorber un certain problème de livraison, parce qu'il y a des exemplaires limités, donc pas forcément pour tout le monde, et donc là bah, il faut exiger des remboursements dans l'après-coup pour ceux qu'on n'a pas reçus, etc., alors qu'avant ça pouvait se
temporiser un peu, quoi.
Temporiser, enfin, d'un paiement sur l'autre, ouais. Voilà, s'absorber. Voilà, donc bref.
Sans compter certains qui jouent pas le jeu en les vendant la veille très très cher,
en
je crois,
plus,
histoire
oui,
d'être
sur
sûr.
Discog,
voilà.
Bien sûr,
c'est
bien
pas
sûr.
Très élégant, ça non plus.
En tout cas, conseil aux auditeurs, moi vous avez vu, j'en ai passé parce que j'en ai acheté, mais avant d'acheter au Discard Day, renseignez-vous sur les vinyles, renseignez-vous sur le prix des pressages originaux, parce que des fois il n'y a aucun intérêt en fait à acheter
oui,
Discard Day,
oui,
si ce n'est.
Ouais.
Moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt d'acheter un vinyle 40 euros qui en vaut 15 ou 20 en original.
En VG plus original.
Tout ça parce
voilà.
qu'il est un peu rouge et qu'il n'y en a que 500 des comme ça.
Ouais.
C'est,
ouais.
Pour moi il n'y a aucun intérêt du tout. Donc ne faites pas ça, parce que ça justement c'est prendre les consommateurs de vinyle pour des pigeons. Sony et Prince, je vais leur faire un petit clin d'œil aussi. Oser accoler le terme limited edition sur un truc pressé à 13 000 exemplaires.
Ouais, ça
moi, je trouve que c'est
sens,
vraiment
quoi.
Du foutage ouais. de gueule. Donc,
dans le marché du vinyle, oui, on est très très loin de l'édition
limitée.
Très
loin,
quoi.
Très très loin. Bref, il y en aura pour tout le monde à 13 000, hein, je pense, vous inquiétez pas. Et puis dans pas longtemps, ils vont rééditer Crystal Ball. Vous inquiétez pas qu'avec Crystal Ball, il y aura une autre version eh bien de The Truth, hein, parce que c'était un petit peu le truc au départ. Donc voilà.
Hein, oui, puis faites les bacs des disquaires, des fois
oui.
certains ont des rayons discardés des années précédentes
oui.
avec des choses qui n'ont pas trouvé preneur parce que c'était un peu moins connu, un peu moins hype, et c'était pourtant super bien, et ça vaut aussi le coup d'y jeter des oreilles, et c'est à d'autres prix quoi, la cohue est passée et
voilà. Donc moi voilà, pour vous donner un exemple, c'est pas que je veux me la jouer ou me dire que je fais mieux que tout le monde, parce que voilà, moi j'y ai participé, parce que voilà, il y avait des disques qui m'intéressaient, donc j'ai été consommateur de vinyle, mais voilà, The Truth c'est un inédit, donc il n'y a pas moyen de l'avoir autrement. Ed West, il est très très difficile à trouver,
ouais.
Et pas de Thomas, voilà, première réédition d'un truc qui vaut 500 balles l'original, là il y a un intérêt.
Bah, comme le Giuliano Sorghini qu'on
aurait bien aimé avoir et qu'on n'a pas eu, voilà, ça c'est pareil, c'est des trucs intouchables en OG.
Plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers peut-être même, je sais plus, enfin voilà,
voilà, possible. Donc sélectionner, encourager vos disquaires aussi à pouvoir justement se tourner vers le qualitatif, c'est-à-dire consommer bien chez eux aussi pour qu'ils puissent avoir des produits qui leur ressemblent, qui leur correspondent, parce que s'ils doivent se mettre à fournir des trucs qui n'ont rien à voir avec la culture vinyle, à un moment donné, il y a quelque chose pour eux qui est un grand écart qui va un peu leur faire perdre le plaisir de leur métier. Donc il faut faire attention à ce qu'on consomme, un petit peu comme partout en fait. Consommer responsable, manger des disques de façon responsable. On va se quitter avec un petit medley pour les petites minutes qui restent. On peut s'autoriser un petit peu à dépasser. On va pas le dire trop fort. Un petit medley puisque la France, c'est fini. On va se tourner
vers l'Italie.
Vers l'Italie, Forza n'est-ce pas, Italia. Mon cher Julien, puisque je connais un petit peu tes racines. L'Espagne aussi, oui, mais là, ça va être l'Italie parce que je vais vous faire un petit mix de deux pionniers de la musique italienne. Enfin, pas pionniers du tout, n'importe quoi. Deux symboles de la musique italienne des années fin 70-80. J'ai nommé Adriano Celentano et Pino D'Angio. Donc, le premier qu'on va s'écouter, donc, c'est Adriano Celentano. Yes I Do, qui date de 1977, et ensuite le fameux Pino D'Angio à la ligne de basse ultra connue, ultra samplée, avec Makua Leidea, qui a fait danser toutes les discothèques du monde dans les années 80. Vous allez le reconnaître si jamais ma présentation ne suffit pas. On vous dit à dans 15 jours,
en direct. Bye bye.
Ciao. Never let you down.